Et nous reprenons pour cette troisième partie du Radio Release 27. Et nous allons commencer, enfin recommencer avec... vas-y, c'est quoi le titre déjà ?
Saga of the Icelander.
Saga of the Icelander.
Oui, donc les, un peu les sagas des Islandais. Hein. Mm-hmm. Saga of the Icelander, c'est un jeu de Grégor Vuga, qui est un auteur slovène. C'est un hack d'Apocalypse World hein, qui a été...
un auteur slovène.
Je crois bien.
Je vais te détruire, ça va être horrible.
Donc c'est un slovène qui détourne un jeu américain pour jouer en Islande.
Il n'est pas slovène ?
Je sais pas.
Ah, je sais bah, il me
pas,
semblait
on va bien.
Bien
rigoler, vas-y, on voit.
Bon.
Oh, mais quoi ?
Oui, tu veux... oh. C'est un acte.
Il est slovène, qu'est-ce que.
Non, c'est Apocalypse World qui m'a fait rager.
Oui, ah. C'est un acte d'Apocalypse World, effectivement, qui a été financé via Indiegogo. Il y a eu assez peu de publicité, oui, mais son financement a été. Indiegogo. Oh.
Yannick.
C'est fini, hein.
Yannick, tu es sage.
C'est parce que Kickstarter n'est pas accessible, en fait, si on n'est pas américain ou anglais.
C'est vrai.
Il faut avoir un compte.
Voilà, donc du coup, ça a été financé sur Indiegogo avec assez peu de publicité. Son financement a été bouclé en un mois, novembre 2012, obtenant 8 825 $ sur les 2000 demandés. Ce qui fait à peu près 250 bouquins vendus, je crois. Pour le moment, seul le PDF est disponible pour les backers. Et la bonne nouvelle pour l'ouvrage papier, ça devrait arriver dans une semaine. Pour les retardataires.
Hein ? Qui disent ?
Oui, bah oui, en fait. J'ai dit à l'auteur, il me dit c'est quel vendredi que tu passes ? C'est celui-là. Ah merde, je peux rien confirmer. Bon, bah tant pis. Pour les retardataires, il y aura ensuite la possibilité d'acheter le PDF, peut-être même le livre. C'est un ouvrage actuellement de 179 pages noir et blanc, plus des images en couleur, le tout en format paysage. Son thème général, c'est la vie des colons islandais au Xe siècle, donc à peu près peu de temps après la colonisation de l'Islande en 875, et jusqu'à quelques temps après qu'elle soit complètement christianisée vers l'an 1000. C'est une terre sans roi ni chef, tout ce qu'il y a en fait c'est de la loi, qui s'établit et se codifie au fil du temps. C'est pas un jeu de simulation historique, hein, il vise à dépeindre une image crédible de l'Islande des sagas. Donc les sagas des Islandais, les bouquins dont c'est tiré en fait, hein, sont initialement des sagas familiales. Non, j'ai cru qu'on voulait une question. On peut m'interrompre,
oui,
c'est possible.
D'accord, je connais pas ça du tout, c'est très connu ces sagas
islandais,
islandais
bah, moi Island, la oui. Seule version que j'ai vue, c'est un bouquin, c'est un bouquin pingouin où il y a l'intégrale des sagas islandaises, qui doit faire, je sais pas moi,
13 pages.
8 centimètres d'épaisseur et je sais pas combien de centaines de pages.
D'accord.
Il y en a plein en fait, effectivement. On le trouve éventuellement sous le nom de saga familiale. Donc c'est parce que ça raconte justement des histoires des familles. Hein. C'est les auteurs racontent l'histoire de leurs ancêtres, généralement qui ont été connus pour des expéditions vikings qu'ils ont faites, bah, genre Eric le Rouge qui part au Vinland, qui croit qu'il va arriver au Groenland et qui arrive un petit peu plus loin. Ou très souvent en fait ça parle d'histoires de qualité personnelle en fait de leurs ancêtres, l'honneur, d'histoires d'amitié, d'amour, etc. Les sagas en elles-mêmes tournent principalement autour des querelles humaines et de la manière de les résoudre. Bref, c'est du drama mais avec des haches danoises et des boucliers qui volent en éclats.
Oh,
c'est pas mal ça.
C'est en du dehors, fait par HBO quoi.
En dehors des règles et du cadre même, on trouve quelques bonus hein, suite au projet Indiegogo, donc sur la loi et les sentences, sur l'unité de la nation qui a vécu longtemps sans chef, plusieurs centaines d'années je crois, sans roi. Donc quand on nous fait croire à chaque fois c'est pas possible, etc. Sur leur mœurs sociales, qui étaient assez ouvertes, divorce, machin. Et il y a aussi quelques recettes de cuisine pour la table de jeu, mais il n'y a pas de la recette du ponche. Qu'on compte sur Cobal pour compléter ça. Le ponche islandais sera bien évidemment en lien sur le site.
Ce sera fait.
Les règles. Bah donc c'est un jeu qui est powered by the Apocalypse. Attention, ou propulsé par l'Apocalypse, comme je l'ai lu cet après-midi sur Google Bus.
Propulsé.
Je crois
c'est les Québécois qui disent ça.
Je pense que c'était. Voilà, je ne sais plus.
C'est propulsé en tabernacle.
Mets-moi le bien au fond. Enfin là.
Tape dans le fond. Je suis pas.
Tape
dans le fond. Effectivement. Le replacer. je vais taper dans le fond de l'Apocalypse.
C'est comment ça dit
mon calice. Bon, calice d'Apocalypse. Ça reprend tous les principes généraux. Donc il y a des livrets, il y a des actes qui sont communs à tout le monde, d'autres qui sont spécifiques à chaque type de personnage, des tests avec trois issues possibles, des fronts, des menaces pour aider les MJ à créer ses antagonistes. Chaque joueur choisit un livre de rôle qui lui permet de rapidement choisir son apparence, ses caractéristiques, ses possessions et les actes qui lui sont spécifiques.
Livre de rôle, c'est une classe de personnage.
Tout à fait, t'en as un devant toi, là, qui te va très bien, la porteuse de bouclier par exemple.
Ah bah comme la viking dans la série du même nom.
Attends, tu m'as filé le monstre.
En gros c'est ça,
ça va,
c'est la femme qui de temps en temps va être amenée à prendre les armes. Et du coup à remettre un petit peu à être à la limite de ce qui est attendu d'elle dans la société, parce qu'elle prend un rôle de mec.
D'accord.
Donc c'est un peu le personnage cross-gender quelque part, si tu veux. On a quatre caractéristiques qui sont, je vous les donne en français, hein, jeunesse, donc Jung en VO, c'est pour les efforts physiques, la vaillance, la beauté. Sagesse, donc Verst en VO, pour les paroles avisées, savoir observer en agir. Destin, Weird, quand on fait appel à la chance ou tout ce qui a trait au surnaturel. Et enfin, rôle, gendered, pour tout ce que la société attend de ton genre sexuel. Chacune de ces caractéristiques est associée à la résolution de tests, donc en anglais des moves, qu'on effectue quand certaines conditions sont rencontrées dans la fiction, quand on accomplit certains actes. Moi j'ai choisi le terme acte pour ma traduction française en fait. Si je tente ma chance sur une action dangereuse, je serai dans le cadre de l'acte tenter le sort. Je testerai avec destin et j'appliquerai les résultats qui sont dictés par l'acte. Si j'essaie de me remettre de blessures graves, ça sera un autre acte que je testerai avec jeunesse par exemple.
En français ça a été traduit par action dans les dans Dungeon World.
Ouais, je sais. C'est ça l'avantage quand t'es le premier à traduire un truc, c'est qu'en fait tu dis voilà j'ai choisi acte parce que c'est vraiment je fais quelque chose et voilà j'assume, mais quelles sont les conséquences de mon acte, j'ai
d'accord
choisi
très bien ce, voilà. Okay,
dans Monster Horde j'avais choisi manœuvre parce que c'était vraiment comment est-ce que tu veux manœuvrer autour d'une difficulté, comment tu vas essayer de la contourner, etc. Bah bon c'est voilà, donc j'en suis à acte, voilà.
J'en suis à acte et je t'emmène.
Oh, faut pas dire ça. Alors, pour un test, on jette 2 dés à 6 faces, auquel on ajoute un des 13 suscités. On obtient donc 3 résultats possibles. Sur un 10+, c'est une réussite bien tranchée. Donc le joueur obtient ce qu'il voulait. Sur un 7-9, c'est une réussite mitigée, qui comporte souvent un prix ou un impact qui est plus léger. On arrive, on met une patate, mais il y a quelque chose à payer en échange. Et sur un 6, le plus souvent, c'est un échec auquel le MC répondra dans la fiction, alors que c'est principalement le joueur qui fait des choix en cas de réussite. Il gagne aussi un petit peu de contrôle narratif sur la suite de l'histoire. Bon, comme ce qu'on voyait aussi avec la prouesse dans Roll 3. Hein. Dans les moments où le joueur échoue, le MC répond au joueur par ses propres actes, donc des actes cérémoniaux, puisque MC c'est le maître de cérémonie, hein, donc MC c'est le MJ dans ce jeu-là. Ces actes cérémoniaux sont juste des réponses classiques de MJ, hein, mais c'est juste qu'elles ont été codifiées, comme dans tous les jeux Apocalypse World. Donc on aura des phrases telles que « infliger des dégâts tels qu'établis »,« séparer les personnages », etc. Mais bien évidemment, il va pas les annoncer comme ça dans le jeu, c'est pas « je t'inflige des dégâts tels qu'établis hein, », tu le savais, t'es un peu prévenu quand même. il enrobe toute fiction, donc voilà, je vais pas te blesser simplement, je vais dire que « son épée passe au-delà de la protection de ton bouclier pour éventrer ta queue de maille, des anneaux tombent au sol et ton sang les rejoint bientôt. »
Oh.
Rends-moi ta feuille.
c'est presque ça. Pour résumer le rôle du MC, en fait, tout ce qu'il dit doit être un acte qui suit des principes, par exemple, adressez-vous au personnage, pas au joueur, pensez au monde autour, laissez la roue du temps tourner, pour atteindre les objectifs. Les objectifs, c'est peindre une image crédible de l'Islande des sagas, mettre les PJ dans des circonstances dignes des sagas, et jouer pour découvrir ce qui va se passer. Encore, on retombe aussi ce qu'on avait sur Ultré. Alors, j'ai pas prévu de scénar, je sais pas précisément ce qui va se passer, je reste ouvert aux apports à la fois des joueurs, du MJ et du résultat des dés. Par exemple, si je suis gravement blessé, en fait, je vais tester avec jeunesse. Sur un échec, ma blessure guérira pas sans intervention. Donc il faut que quelqu'un m'aide, sinon je vais clamser. Elle laissera une cicatrice, et ça me fournira aucun avantage. Par exemple, si je rencontre le gars qui a essayé de m'estourbir plus tard, j'aurai pas de bonus contre lui. Sur une réussite mitigée, je pourrais neutraliser un de ces facteurs. Par exemple, j'aurai pas de cicatrice. Et sur une réussite tranchée, bien réussi, avec un 10+, je pourrais neutraliser 2. Donc dans ce sens-là, le joueur peut choisir un petit peu comment il veut orienter les choses. Est-ce que je veux plutôt la jouer version Vendetta ? Est-ce que je veux jouer la version le Viking Manchot, etc. On a différents types de personnages dans le jeu. Donc l'ossature du jeu, ce sont les colons typiques, ce qui est un peu logique. Hein. Donc c'est des gars qui se sont barrés de Norvège, généralement parce qu'ils étaient un petit peu dissidents, un peu rebelles et pas en faveur du roi, etc. C'est pas écrit dans le jeu, mais c'était plutôt des gens un peu friqués quand même. C'était pas du peigne-cul en fait qui se barrait. Hein. C'est des gens qui avaient quand même un peu de moyens et moyens de se barrer. Donc c'est des colons typiques qui cherchent tout simplement à vivre de ce que la terre peut leur apporter. Leurs actes les mettent face à des difficultés de l'environnement qui est très avare en ressources. Il s'agit de l'homme et de la femme. Pour tout de suite avoir une idée précise, il suffit de transposer Charles et Caroline Ingalls, mais en version nordique. Ça pose tout de suite le décor. Tu prends un épisode de.
Avec des haches et tout, et des boucliers.
Ouais, voilà.
Ça
mais ça, t'accroches ça au-dessus de la cheminée. Enfin, il n'y a pas de cheminée, mais bon.
Et Charles, il coupe pas du bois, il coupe des têtes.
Bah, non, en fait, de base, tu coupes du bois et tu coupes des têtes quand t'as pas trop le choix, en fait. Généralement, mais ton objectif de base, tu te dirais, je serais bien heureux si je pouvais couper du bois. Ça me permettrait de faire une petite fête, de nourrir ma famille, tout ça, etc. Donc, en fait, ces gens-là, l'homme et la femme, sont l'exemple de ce que les individus libres, devraient être. L'homme fait tourner la ferme, essaie de récupérer de la matière première, du bois, du métal, du fourrage et du bétail. Et la femme fait tourner la maison, elle racle les fonds de tiroir quand les temps sont durs, elle sort les biscuits quand les gens viennent manger, tout ça. On a des personnages un peu plus en soutien. Une fois que ces rôles-là vont avoir été remplis, la matriarche, par exemple, ça c'est la vieille qui a survécu à 3 maris qui sont tous morts en faisant des raids. Mais du coup, elle a un peu une main mise sur la famille, elle connaît tout le monde, elle t'a fait sauter sur ses genoux, donc elle a une forme de pouvoir. On a le Godi, qui est un prêtre-chef, en fait. C'est ce qui s'apparente le plus à une figure d'autorité. Mais sa charge, en fait, c'est pas un titre ou quoi que ce soit, ça se vend. C'est-à-dire que t'es le gardien, en fait, d'un espèce de site sacré qui te donne le droit de faire des rituels et d'arbitrer un petit peu la justice. Mais en fait, si t'es une buse, si tu défends pas l'intérêt des gens et compagnie, les gens ils ont juste à se dire « Bah écoute, c'est bien, je te donne plus mon fric, je viens plus faire mes rituels chez toi, et je vais chez le Godi voisin. » Donc t'as un impératif de compétence, quelque part. Donc un Godi incompétent ne garderait pas son pouvoir longtemps, on n'entretient pas des inutiles, quelque part, quoi. On a Seikona, qui est une sorcière. La magie, c'est un truc typique de femme. Donc en gros, si un homme fait de la magie, ça n'est pas très masculin. Donc ça n'est pas viril, ça n'est pas bien. Le Uskar, justement, en parlant de virilité, c'est celui qui mène les raids. Et souvent, il amène le conflit avec lui, parce que on retrouve le guerrier un peu berserker, très sûr de lui, qui donne des conseils sur comment faire tourner ta maison, ce qui, à un moment donné, finit par devenir un peu insultant aussi. La porteuse de bouclier, orientée guerrière aussi, qui, en tant que femme, prend un rôle d'homme. Et donc là, ça peut être un peu limite. Socialement, c'est un peu difficile à... ça peut être difficile à vivre. On a d'autres persos, mais qui sont moins importants dans les sagas, en fait. Ils sont moins prédisposés à être des héros, toujours dans les textes des sagas. Ouais.
Ces personnages-là que tu présentes, ce sont des archétypes ou c'est vraiment... enfin, c'est juste des exemples ou c'est vraiment...
Non, ce sont vraiment, comme dans tous les jeux Apocalypse en fait. World, Monster Hearth, Dungeon World, etc., tu joues des jeux à livrer, entre guillemets, ou sur ta fiche de personnage, ça correspond vraiment à un type précis de personnage.
D'accord.
Qui va pouvoir aller glaner quelques actes sur piquer des trucs aux autres. Par exemple, la porteuse de bouclier va pouvoir aller piquer un truc de mec, alors que c'est une femme. Mais grossièrement, oui, t'as un rôle bien défini, une image bien définie.
D'accord.
Qui correspond donc à ce qui est marqué sur cette affiche, quoi. Donc on a des personnages qui sont moins prédisposés à être des héros des sagas, entre guillemets, genre l'enfant, le vagabond, l'esclave, le monstre. Ils sont plus en retrait, donc moins... ils sont intéressants, ils apportent tous quelque chose au setting, mais de par leur nature, ce sont des personnages moins héroïques, entre guillemets, dans le support, dans le genre, en fait, qu'on essaie d'émuler avec ce jeu.
J'ai le monstre sous les yeux, ça a l'air rigolo.
Bah, le monstre, en fait, c'est ça. C'est pas nécessairement le monstre. Ça peut être Grendel, en fait. On peut le voir comme Grendel. Non, ça vous parle. Beowulf, etc.
Oui, mais je pense à Grendel, au nain dans Game of Thrones.
Ouais.
Comment il s'appelle ?
Oui, Tyrion.
Tyrion, voilà.
Bah, c'est
exactement ça, quoi.
Ouais, c'est un paria social. Il est pas forcément monstrueux physiquement, mais le fait, c'est
dans
que le personnage...
Il est monstrueux physiquement.
Ouais. Oui, il est difforme, etc. Mais... Le personnage là du monstre en fait se trouve en dehors du système social quelque part, genre il a pas de cœur, donc je lis dans son cœur, non ça marche pas, j'insulte son honneur, mais il s'en fout, il en a déjà pas. Donc quelque part on a un personnage qui bénéficie pas des avantages d'être intégré dans la société avec le monstre, mais qui du coup ne peut pas être atteint par les mêmes insultes ou les mêmes contraintes que quelqu'un qui est inclus dans cette société.
D'accord, c'est le punk à
c'est le punk, voilà, c'est le punk de l'époque en fait. Alors, en dehors de ces règles basiques, moi, j'ai trouvé plusieurs points intéressants dans le jeu que j'ai lu et je fais jouer. Petite précision.
Waouh.
Eh ouais, deuxième session cette semaine, d'ailleurs.
Il y en a deux à la table qui font jouer.
Ouais. Ça, on va lancer une partie.
C'est les invités.
C'est un peu comme les loups-garous tirent ce lieu, en fait. Hein. Autour de cette table, il y a deux MJ qui font jouer les jeux dont ils parlent. C'est pas moi.
Je vais fournir mon compte PayPal et contre un léger paiement, je fournirai les noms.
Alors, un truc que j'aime bien, le premier, les spécificités des genres. Alors, si Apocalypse World ou Monster Horde, ça encourage le queer et la confusion des sexes. Saga, en fait, ça dissocie bien les rôles appropriés à chacun des deux genres. La société, même si elle est super libre, en fait, hein, avec les divorces, les mariages, tous les choses, même l'histoire de dot et tout, ça se passe bien, la dot du mari et de la femme, c'est à peu près pareil, etc. La société, en fait, elle attend des choses différentes des deux genres, et les actes reflètent cela, en rendant certains actes accessibles uniquement aux hommes, et d'autres uniquement accessibles aux femmes. Donc, non, les hommes, désolé, vous ne pourrez pas accoucher. Les hommes vont être des acteurs directs, ce sont les héros des sagas en fait, hein. Donc ils sont contraints à l'action de par leur honneur et doivent souvent justement réagir promptement quand ce dernier est remis en question, donc ils sont insultés quoi. À l'inverse, à chaque fois qu'eux vont discuter, ils doivent naviguer assez subtilement dans la discussion pour ne pas insulter les gens qui sont en face d'eux et se retrouver donc avec une hache dans la gueule. À l'inverse, les femmes, elles, vont pas être des actrices directes en fait dans les sagas, mais donc elles vont agir indirectement en influençant les hommes, en les séduisant, en les conseillant, ou en les poussant dans les retranchements. Genre, tu fais pas ça, mais t'es pas un homme, quoi. J'ai pas épousé cet homme-là. Bon, d'accord, je vais aller péter la gueule. Donc c'est assez intéressant d'avoir. Moi, je joue avec des tables mixtes aussi, donc j'ai toujours cette plus ou moins une parité entre guillemets. Ça, je trouve que c'est assez intéressant aussi
c'est bien.
D'avoir ce reflet là-dedans. Deuxième point, les relations. Tous les jeux, en fait, ont leur petit système. Tous les jeux Powered by the Apocalypse ont leur petit système. Hein. On a les historiques, les X dans Apocalypse World, on a les strings, les ascendants dans Monster Heart. Et là, on a, fait, on a des bonds que j'ai traduit par influence. Au début de chaque jeu, chaque joueur va établir 4 relations avec des PJ et des PNJ. Par exemple, c'est mon époux.
Il vient de te chercher, là.
Ouais. La personne qui me doit quelque chose, mon petit-fils. Il y a des suggestions, en fait, sur chaque livret. Et toutes les suggestions sont différentes. Mais ce ne sont que des suggestions, pas un carcan. C'est en interagissant, en fait, avec ces personnages que le joueur gagne de l'XP. C'est le seul moyen de gagner de l'XP. Par rapport aux autres jeux où ça va être du style j'ai activé telle manœuvre de sexy par exemple en Monster Heart, donc je gagne un XP. Là c'est uniquement en agissant avec d'autres personnages, d'autres relations qu'on va gagner des XP. Donc à chaque fois qu'on cible en fait une de ces relations avec un acte, on gagne un petit morceau d'avancement dès qu'on a ciblé 4 relations différentes avec des actes, là on gagne un avancement entier. C'est plus clair comme ça. Les actes sont nombreux et variés, c'est donc assez facile à placer. D'autant qu'en début de session, on reçoit une influence sur chaque relation qu'on a sélectionnée. Alors une influence, la simple dépense d'une influence, ça permet de choisir 3 choses, donner un plus 1 à un test du personnage concerné, lui donner un moins 1, ou lire dans son cœur. Lire dans son cœur, c'est est-ce que tu mens, quelles sont tes intentions, etc. Donc simplement croiser une relation dans une scène et dépenser l'influence qu'on a obtenue sans rien faire au début de la session, c'est du PEX. Je dis sans rien faire parce que par exemple dans Monster Heart, on va aussi avoir des strings en début de partie, et on n'arrive pas nécessairement toujours à les renouveler au fil du jeu. Donc à un moment donné, on s'épuise un petit peu sur les influences qu'on peut avoir sur les autres personnages. Là c'est... À chaque début de session, tu gagnes des points d'influence. Donc tu as un pouvoir réel sur l'autre personnage. On n'est pas pour autant cantonné avec les 4 relations qu'on a choisies au début du jeu, puisqu'à chaque session, en fait, on va pouvoir en changer 2. On va soit en changer complètement, alors finalement je préfère me focaliser sur tel PNJ ou sur tel PJ, ou nuancer l'existant, quoi. Genre Rotulf n'a pas de parole, peut devenir, bah en fait je lui dois la vie, parce que dans l'épisode précédent, il m'a sauvé d'un glacier ou un truc comme ça, quoi. Enlever quelqu'un de ses relations, ça ne change pas non plus la nature qu'on a avec lui. Donc si j'étais marié avec Ragnhild, mais que je l'enlève de mes relations, c'est juste que je pourrais pas pexer entre guillemets avec elle, mais ça reste toujours ma femme. Désolé chérie, mais tu me rapportes pas assez.
J'appelle ça pexer maintenant.
Ouais, je sais pas. Donc pour moi, là, on a une mécanique d'expérience qui est simple, qui indique vraiment au MC avec qui on veut interagir, qui permet un suivi de l'évolution des relations entre les personnages, sans se creuser la tête pour la requalification d'une relation comme on a dans Smallville, quoi. J'ai pas à réfléchir, je vais dire qu'en fait, je vais dire que c'est plus ma femme, mais c'est la personne avec qui, blablabla, on s'en fout, c'est juste une information pour que le joueur garde une trace de où j'en suis avec tel personnage, qu'est-ce que j'ai dans ma grille de personnages, qui j'ai envie d'aller voir pendant le jeu, quoi. Troisième petit point qui me plaît bien, c'est la lenteur. Là où Apocalypse World et Monster Earth, ça encourage complètement l'intensification du chaos pour mener à une conclusion explosive, avec des morts, du sang, du sexe, etc. Saga, ça incite à prendre le temps de souffler, à se laisser le temps autour de la table et dans le jeu. C'est vraiment écrit, quoi, genre prenez votre temps, réfléchissez 5 minutes pour faire un donjon de l'Olfrey, par exemple. en faisant passer par exemple les semaines, les mois et même les saisons entières. Par exemple, chaque hiver qui passe, ça augmente les choix d'avancement possibles. C'est-à-dire qu'on a des possibilités basiques établies sur chaque livret. Et si un hiver passe, bah, par exemple, je vais pouvoir dire je me rajoute la possibilité de, quand j'aurai un avancement, retirer mon perso tranquille dans son chalet. ou de jouer un deuxième personnage, ou de transformer mon premier personnage en un autre. Genre, bah, finalement, mon fermier devient Oscar. Enfin, tu as demandé est-ce qu'on pouvait changer, en fait, enfin, quel était le degré de
manœuvre. On peut changer d'archétype en cours de jeu, ouais. Mais ça restera cet archétype-là, en fait.
Tu partiras avec ta base et tu transformeras, voilà. Tu prendras à ce moment-là le deuxième livret.
Voilà. D'accord.
Donc, tu gardes des possibilités d'évolution. En dehors de ça, on a aussi de nombreux actes qui sont liés aux saisons. Je vais récolter, toi en tant qu'homme, tu vas aller récolter le foin au printemps. En été, le Oscar va partir avec son bateau pour aller faire un raid. Le Godi, en hiver, va faire des rituels odieux pour que l'hiver soit pas trop rude. Donc c'est vraiment ancré dans le rythme. Ça permet de dire, voilà, on va pas faire une saison morte, entre guillemets. Même pendant cette saison morte, il y a des choses qui vont se produire, qui peuvent se passer. Les personnages sont fragiles aussi, vu qu'il n'y a pas de point de vie. Hein. Ce que je vous ai lu tout à l'heure sur les blessures graves, ça s'arrête là. Donc une mauvaise blessure. Dans les sagas, en fait, les gens ils meurent à peu près en 60% des cas à chaque fois qu'ils se prennent un coup. Donc c'est pareil à peu près dans le jeu.
Oui, c'est extrêmement.
Ouais, à partir du moment où tu. Alors,
tu te fais décimer, quoi, si tu.
Ouais, t'as intérêt à avoir un peu une armure, etc. Les duels, etc. Ça, normalement, il y en a un des deux qui reste, c'est clair, net.
Ok, oui, donc ça incite pas du tout à aller se bastonner avec son voisin.
Parce que comme le temps passe vite, ton fils va aller te venger. Et c'est comme ça aussi concret. Voilà, les querelles que tu vas gérer ne sont pas nécessairement celles que de ta génération, en fait. Elles peuvent très bien être celles de la guerre d'un clan qui a commencé avec ton grand-père.
Okay.
Mais toi, tu gères quand même les conséquences de trucs-là.
Du coup, il y a un système de
filiation.
Non, mais en fait, dans les choses que tu peux jouer, il y a par exemple l'enfant, donc tu peux jouer deux personnages. Tu peux jouer à mon avis la mère et son fils. Tu peux jouer, rien ne t'empêche de jouer ça ou d'avoir défini de toute façon dans tes relations qu'il y a tant de personnages et de dire bah ok, là on n'a plus rien à faire, on a résolu tout ce qu'on a à faire, on fait passer 5 ans. Ton fils maintenant il a 16 ans, c'est un homme, il est devenu quoi, guerrier, godis, et de gérer la suite en fait dans l'esprit donc des sagas, bah voilà, des choses qui évoluent. Donc les personnages sont fragiles, je disais, les conséquences de leurs actes peuvent s'établir sur des générations comme dans les sagas. Et un autre point, c'est que ce pays il vit pas en autarcie, en fait, hein. Et la Norvège, entre autres, va progressivement christianiser l'Islande. C'est plus compliqué que ça, mais on va pas rentrer dans les détails, mais il y a une christianisation progressive, et c'est un des points qui est abordé par les règles. Le fait qu'on meure, par exemple, païen, ou qu'on devienne chrétien, et qu'on meure chrétien, va avoir un impact sur des personnages, ou même sur la culture entière. Admettons, t'as réussi, tu veux devenir chrétien, bah ouais, ok, d'accord, t'acceptes le gospel du Christ, bah qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu relâches tes esclaves? Est-ce que t'arrêtes de faire telle chose? Est-ce que tu te trompes pour
Il y a des esclaves en Islande?
Ouais.
Enfin, il y a
si tu joues l'homme, tu peux être esclavagiste.
Ouais, et c'est vachement bien.
Ah, d'accord.
Parce qu'en fait, ouais, quand tu vois, tu dis putain, c'est difficile de faire, tourner mes champs comme ça tout seul. Ça irait vachement mieux si j'avais des esclaves. Mais c'est pas l'esclave classique comme on le voit, c'était des gens.
Plus proche des cerfs, peut-être.
Plus proche du cerf, plus proche du. Par exemple.
Des bétayers,
par exemple, admettons, tu dois.
Des journaliers, en fait.
T'as pas réussi à faire survivre ta ferme cette année, t'as emprunté à ton voisin, et bah pour repayer, t'as aucun autre moyen, tu vas être son esclave pendant tant de temps.
Historiquement, l'esclave du 18e siècle, du commerce triangulaire, tout ça, c'est l'exception à la règle, en fait. Hein. Le statut d'esclave était moins horrible que cette déshumanisation qui a eu lieu au 18e.
D'accord.
C'est des gens qui pouvaient, dans certains pays, prendre des épouses, finir par hériter de leur propriétaire, des trucs comme ça. C'était plus des êtres humains que ce qui s'est passé au 18e.
D'accord, ok.
Là, l'esclave, ça peut être aussi un Celte qui a été capturé lors d'un raid, etc., mais qui a peut-être la possibilité après de devenir quelqu'un de libre, et ainsi de suite, quoi. Voilà, dans les grandes lignes. Ah oui, donc oui, comme je disais, je termine mon petit exemple sur le chrétien. Par exemple, s'il meurt chrétien, un personnage va pouvoir effacer un pan de la culture islandaise.
Ah la vache.
Mais là, du coup, donc, c'est une responsabilité aussi, c'est vraiment quelque chose qui est autour de la table. Et un autre qui va mourir en païen, je crois, pourra influencer des jets de dés d'autres païens encore dans le futur. Donc tu peux avoir un peu une espèce de lutte, tu peux très bien avoir autour de la table, déjà, qui commence à se christianiser, etc.
Donc il y a une espèce de méta-personnage de groupe qui est de la culture islandaise.
Ça peut, ouais. Si tu veux jouer vraiment et dépasser, voilà, jouer, c'est pourquoi il n'y a rien qui empêche de jouer sur des décennies ou quoi que ce soit, quoi. Mmh. Les personnages n'ont pas énormément de possibilités d'évolution, ils peuvent gagner des actes, mais il y a vraiment beaucoup d'actes basiques accessibles à tout le monde. Je t'offre un cadeau, c'est un acte. Je lis dans ton cœur, c'est un acte. Un hiver passe, c'est un acte. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est simple. Les actes sont vraiment simples. Tu les lis, tu les comprends.
Okay.
Débutants, novices, expérimentés. Voilà un petit peu. Donc,
ok. Et alors donc toi tu l'as maîtrisé ouais. Et tout. Alors qu'est-ce que ça donne en jeu? Sur quoi tes joueurs se sont orientés?
Je pourrais mettre un lien parce que j'ai un wiki en fait qui commence à, et j'ai même on a aussi enregistré la deuxième partie, la première foirage, mais bon, ça peut donner une idée. Uh-huh. J'ai un homme et une femme, donc la base, un Godi et une Seidkona. Ça a commencé et un Oscar. Donc le couple de base en fait commence l'année au printemps vraiment avec des grosses difficultés parce que en gros la moitié de la charpente de leur toit s'est écroulée. En fait ils ont très mal, ils ont tous les deux raté vraiment leur jet dès le démarrage. Genre en gros, est-ce que t'arrives à tenir ta ferme? Non. Est-ce que t'arrives à tenir la femme? Est-ce que t'arrives à faire tourner la maison? Non. C'est pas grave, on a mis ça sur le dos du House Carl, le House Carl qui squatte depuis 6 mois chez eux en branlant rien. Parce que c'est un vieil ami de l'homme. Donc quelque
D'accord.
part la femme voudrait le mettre dehors. Mais en même temps, si elle le met dehors, elle remet en cause l'honneur de son mari. si c'est elle qui a l'air de prendre des décisions là-dessus, etc., ça pose problème. Et en même temps, l'autre il va dire bah non, c'est mon ami, hop, il n'y a pas de raison, on l'héberge et tout. Mais en même temps, il n'y a plus rien à bouffer, quoi.
Ouais, donc, il est sur le canapé, bah, boire des bières.
Il va se rendre chez un voisin qui est sympathique, un voisin qui était défini dans les relations. Parce que donc, 4 relations par personnage, on était 5, ça faisait 20 relations établies.
Ah ouais.
Inter-PJ, mais aussi avec quelques PNJ à l'extérieur. Ce qui permet d'avoir une relationship map très très rapide. Création pour S5, ça a duré 2 heures, on a plus 2 heures derrière. Toujours rapide avec ces jeux-là. Donc il allait demander, bah, en gros, un emprunt à gauche à droite pendant que la femme, elle, allait voir le Godi qui est au courant de problèmes. La sorcière, elle, avait lu les runes et voyait que la femme allait avoir une fausse couche en fait dans un affrontement violent avec son mari. Sachant qu'on tape pas trop sa femme à l'époque.
Oula.
Et oui, sauf que c'est aussi autre chose par les runes, c'est qu'en fait le père, c'est pas le mari, c'est Bjorn le Cutard. et Bjorn le Cutard n'est autre que le frère très bavard et très sûr de lui de la sorcière, justement. Et donc rien que en un épisode, on a eu des choses relativement simples qui se sont mises en place.
C'est très soap en fait.
Comme je le disais, sauf que effectivement, la fin du soap, c'est pas du vous êtes licencié, Gérard. C'est désolé, il va falloir que j'affûte la hache et qu'on règle ça sur un petit îlot.
C'est pareil, vous êtes licencié, Gérard. Schlack.
Ça va couper.
Ça va trancher.
Severance.
Ok.
Voilà. À peu près. Deuxième petite séance, bah là c'est une plus technique, on s'est plus posé des questions sur justement ces notions d'expérience. Y a des personnages qui sont liés familialement, donc qui se retrouvent très proches dans beaucoup de scènes, donc facilement ils placent leurs actes, donc facilement ils placent leur XP entre guillemets. Le personnage de sorcière qui était un petit peu plus loin, je s'est retrouvé plus dans des histoires, malgré le fait qu'elle ait choisi en fait des choses au démarrage, elle s'est retrouvée un peu impliquée avec mes histoires de PNJ, comme si dans Ultray on avait trop forcé le setting MJ entre guillemets et pas laisser assez au PJ la chance de s'exprimer. Et du coup s'est retrouvé un petit peu loin en disant bah mais je peux pas faire mes actions puisque
je n'ai pas en relation pas,
je fais des choses qui prennent du temps et qui prennent du temps et j'ai pas le temps d'aller voir les autres.
Ouais,
bon, on fait des sessions courtes en soi en semaine, hein, 3h 3h30, comme tous les jeux Apocalypse World, Monster Hunter, etc., c'est quand même assez intense. Moi je joue de manière très chaque joueur à son tour. Donc il faut vraiment découper le temps de jeu, etc. Il n'y a pas de scène, il y a très rarement des scènes communes, quoi.
Ok. Voilà. Merci. Eh bien, écoute, je pense qu'on va conclure cette émission avec la dernière chronique de Yannick.
Alors, je vais parler de Stargate Coalition. Avec David, on a été interpellé sur Twitter par, il semblerait que ce soit l'auteur de Stargate Coalition, qui nous avait demandé de parler de son jeu. Donc, étant un gros fan de l'univers de Stargate sans être un gros connaisseur, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça, je me suis dit que j'allais me plonger dans ce jeu, donc c'est ce que j'ai fait. C'est un jeu amateur sous la forme d'un livre PDF de 152 pages. Alors je dis amateur, vous allez voir pourquoi, parce que c'est un côté positif et un petit côté négatif quand même. Donc c'est un livre PDF de 152 pages qui est plutôt pas mal mis en page, avec des illustrations en noir et blanc qui sont d'une qualité plutôt moyenne, enfin c'est acceptable pour un jeu amateur, mais dans l'ensemble c'est quand même assez moyen. C'est divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est la partie technique. Alors le problème, c'est que ça fait un bon 40% du bouquin, les règles, et qu'on parle beaucoup technique avant de savoir à quoi ça sert ou d'avoir un renvoi par une page explicative. Par exemple, on a la présentation des différentes races de personnages qu'il est possible de jouer, avec la liste des bonus accessibles à cette race, mais on ne sait pas du tout, par exemple, à quoi servent les bonus, puisqu'on n'a pas eu les règles avant. Donc la présentation, si tu veux, elle est un petit peu... ils ont mis un peu la charrue avant les bœufs, donc ils parlent de sujets sans les présenter avant. Tu sais que normalement, quand tu présentes quelque chose, tu dois le faire dans un certain ordre, dans un jeu de rôle, et normalement soit faire des références arrière soit avant, mais il faut normalement bien disons que faire quelque chose qui soit lisible. Donc là il y a beaucoup de présentations de choses,
pas forcément regarde les films
Vornheim.
Vornheim c'est à l'envers, les films j'ai déjà dit tout le bien que je pensais de ce jeu. Voilà, bon là rappelons que c'est quand même il y a pas mal de coquilles dans le bouquin, il y a un manque de précision sur certains effets de règles. Il y a un truc qui s'appelle la haine des Goa'uld, par exemple. Je ne refais pas un topo sur Stargate. Hein. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais considérer que c'est acquis, sinon il y a Wikipédia pour ça. Donc par exemple, il y, y a une race qui a un truc, un pouvoir spécial qui s'appelle Endego Ault, et on ne sait pas ce que ça fait. C'est-à-dire que c'est précisé nulle part, si ça donne des bonus, des malus, des indications de jeu ou des choses comme ça. Pour chacune de, des races, parce que c'est un peu le truc qui est présenté en premier, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Pour chacune des races, il y a un chapitre sur le roleplay de chaque race, qui est assez intéressant mais qui aurait mérité d'être un peu plus développé. La manière dont c'est écrit, le style d'écriture en général, c'est très, enfin, il y, y a quelques moments où c'est très familier. Genre, on parle du kiff du MJ, on parle toi des choses comme ça, un peu comme si c'était ton pote qui te racontait un truc, à, un truc à faire. Ça fait, c'est un petit peu.
Ou un chroniqueur radio-rôliste.
Ou un chroniqueur radio-rôliste. Non, mais il y a une différence entre nous quand on parle entre nous et un jeu quand tu le présentes, quoi.
Y a en, que... en même temps, il est pas, c'est pas, c'est pas d'édition pro, donc bon.
Ouais, ouais, mais
ça peut être, ça, dans... ça peut être une posture aussi. De, bah, de...
Non, non, mais là c'est
dans,
pas le cas.
Dans, dans l'édition pro, je pense à Non Armies qui te tutoyait.
Oui, ouais, mais là c'est une posture.
C'est, ouais, c'est une posture.
Attends, moi j'ai écrit un jeu complet là-dessus aussi en tutoiement. Okay. C'est, en plus, c'est pas facile à faire parce que ça, ouais, ça va à l'encontre de ce qu'on fait. Et ça m'a été reproché aussi.
Ouais, là... moi, dès que j'ai posé la question aussi sur mon nez, ouais, sur G+, et voilà, j'hésite. Et, oh non, non, je veux pas que t'es pas mon pote, t'es pas si. Non, mais je me place en père.
Non, non, mais faut faire super gaffe. Là, c'est pas le cas. En fait, c'est pas une posture, c'est pas un choix de style. C'est de temps en temps, le mec qui dit ouais, si c'est le kiff du MJ, faites ça, quoi. Bon, c'est pas. Voilà, bon, ça m'a pas trop plu. Il y a des règles spéciales qui n'ont rien à voir, qui sont mélangées dans le texte. Par exemple, il y a le niveau de dommage des créatures de petite taille qui est dans la description de, d'une race qui s'appelle les réplicateurs. Donc, tu vois, c'est un petit peu mélangé comme ça. Il y a des exemples qui sont un peu bizarrement écrits. Donc, on commence par cette partie-là où il y a pas mal de races avec des bouts de règles, avec des bouts de trucs. Où c'est un petit peu mélangé. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu étrange et j'ai bien vérifié. Je l'ai bien lu dans l'ordre. C'est pas plusieurs parties que j'ai eu dans le désordre. Donc c'est un peu bizarre. Ensuite, on passe à la création de personnage elle-même. Donc c'est une création de personnage aléatoire, un peu à la Donjons et Dragons old school. Quand tu lances 4 des 6, tu prends les 3 meilleurs et tu les mets ensuite dans les caractéristiques dans l'ordre dans lequel tu les as tirés. Donc t'as 8 caractéristiques, 4 physiques, 4 mentales. Donc t'as la force, la volonté, des choses comme ça. Les caractéristiques vont de 1 à 20 et un peu plus et donnent un bonus qui va de moins 5 à plus 5. Et ce bonus sera le seul modificateur qui sera utilisé dans le système. Donc c'est exactement comme Donjons et Dragons, on avait des caractéristiques qui donnaient des bonus, et il n'y avait que le bonus qui servait. Donc on a un petit peu évolué depuis, je ne suis pas persuadé que ce soit utile de garder les caractéristiques. Il y a une caractéristique qui s'appelle beauté, par exemple, qui ne sert à rien, il n'y a aucune compétence qui est associée à cette caractéristique. Il est précisé qu'elle peut éventuellement servir comme modification à un jeu de charisme... peut-être, si l'interlocuteur fait attention à ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt.
J'ai une question. La beauté, elle fait partie des caractéristiques physiques ou mentales ?
Physique.
Ah oui. Parce on voit où on va, donc.
Parce que le mental, c'est le charisme.
En fait, ah c'est l'histoire d'avoir un pendant, quoi.
C'est l'histoire d'avoir un pendant, sachant qu'on est dans un jeu. Alors, Stargate, je vous rappelle, c'est des humains qui découvrent une porte des étoiles et qui vont ensuite visiter des planètes avec des extraterrestres.
Qui sont un peu des militaires.
Oui, bon, là c'est des militaires pour le coup, mais ça pourrait être n'importe qui. Mais bon, ils rentrent dans la porte des étoiles, ils visitent des exoplanètes et ils se battent contre des créatures qu'on appelle les Goa'uld, qui se font passer pour d'anciens dieux terriens, notamment des dieux égyptiens, comme Anubis, Ra, etc. Dans un jeu avec des extraterrestres, la beauté, je suis pas persuadé que ce soit très pertinent. Bon, on s'en fout, c'est juste pour dire que voilà.
C'est
pour
arriver à 8, quoi.
Ouais, c'est pour arriver à 8. Chaque caractéristique régit l'utilisation d'un certain nombre de compétences qui en dépendent, donc sauf la beauté et la volonté qui n'en a aucune, et l'intelligence qui en a deux fois plus. Donc il y a quelques petites exceptions. Il y a des doubles compétences, alors c'est pareil, on a l'impression que c'est pour rentrer dedans. C'est-à-dire, par exemple, pour dire sous, je sais pas, on va dire sous dextérité, tu as une compétence qui s'appelle équilibre et acrobatie. C'est équilibre et acrobatie, c'est la même compétence.
Ah.
Elle s'appelle équilibre et acrobatie. Oui. Tu as une autre qui s'appelle archéologie et langage.
Bon. Ah, oh là.
Alors attention, la dernière.
Ça, c'est à cause du film.
T'en as une qui... tout à fait. Il y en a une qui est pas mal qui s'appelle astrophysique et astrologie.
Ah, donc tu peux être Madame Irma et en même temps.
Alors.
Calculer la trajectoire des comètes.
Voilà. Ouais.
Pour savoir à quelle vitesse Vénus va passer dans le taureau.
Alors, il y a des. Ouais, c'est ça.
Dans la maison du Sagittaire.
Alors après, il y a des compétences un peu bizarres. Par exemple, sabotage, ça permet de poser des mines.
Très bien.
Ou alors de crocheter les portes.
Ah, ouais, tu sabotes la porte, hein.
Ouais.
Ouais, alors c'est une version de crochetage de porte avec à coup d'épaule qui est assez spéciale quand même.
Voilà. Alors, c'est très très. Le système de jeu, je vais passer rapidement là-dessus. Il est très inspiré de Donjons et Dragons version 3.0, 3.5. Au lieu d'être un dé de 20, c'est 2 dés de 10, mais on l'avait fait déjà dans le DK par exemple. Plus la compétence que j'ai décidé, enfin qu'on a vu avant, contre un facteur de difficulté entre 5 et 25 ou plus. Ou alors, donc soit un facteur de difficulté. Dans l'air, soit un jet d'opposition, celui qui fait le meilleur jet
D'accord.
Bah, l'autre. Alors le combat il est un peu complexe, il y a des tas de tableaux avec des modificateurs partout, parfois un peu bizarrement définis. Par exemple pour le corps à corps, quand tu veux bloquer quelqu'un, tu fais un jet qui est modifié si l'adversaire connaît un art martial. Genre t'as un moins 2 si le mec il a un art martial. Sauf que les règles pour les arts martiaux, tu les as page 136, c'est-à-dire dans un autre bout de règles à la fin du...
Dans les annexes.
Ouais, dans les annexes. Et c'est une sorte d'atout en fait, donc c'est pas vraiment une compétence. Il y a un système de localisation, il y a des niveaux de dégâts pour chaque localisation, indiquant si la partie touchée est plus ou moins endommagée, il y a un système de séquelles. Il y a un système d'armure qui est bizarre aussi, au début de chaque tour, le personnage doit déterminer si le bonus de ton armure, il va réduire tes chances d'être touché, ou bien il va te donner un bonus pour résister aux dommages.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais bon, le mec il a fait un hack de DD3, il a rajouté quelques règles et tout... Si on n'aime pas DD3, c'est sûr qu'on va pas kiffer non. du tout.
Non, mais je dis pas,
jeu,
je dis pas que
c'est pas
bien.
Si mal que ça. Quoi.
Non, c'est pas mauvais en soi. Hein. J'ai pas dit que c'était mauvais. Je dis simplement, tu vas voir ma conclusion. Il y a un code de, il y a un système de dommage avec un, qui est, donc chaque arme a un code de dommage entre plus 1 et plus 9. Et si je te touche, par exemple, on va faire un jet de résistance au dommage avec la constitution plus l'armure si t'as décidé au début de tour que t'allais ajouter des dés à ta constitution grâce à ça. Et au lieu de faire un jet de compétences comme l'avant, tu vas lancer un nombre de dés de 6 et chaque dé de 6 doit être égal ou supérieur au code de dommage. Donc tu vois, c'est un type de jet différent.
Tu m'as largué.
Ouais,
en fait,
t'as perdu David.
Alors, ouais, il faut pas que je te regarde toi en fait.
Non.
Donc, je vais vous passer toute la page où je parle des règles en fait. Non, je vais vous passer toute la page. Okay.
C'est à mi-chemin entre Wasberg et Rollmaster.
Non. En fait, l'idée, c'est exactement ça. En fait, c'est un hack de Donjon 3 ou 3.5, enfin plutôt 3 d'ailleurs. Sur lequel ils ont rajouté des règles à eux pour parce que voilà, ça les faisait kiffer ou que ça correspondait à leur style de jeu. Sauf qu'il n'y a pas de cohérence. C'est-à-dire que tu vois, le jet de résistance au dommage, c'est tu lances X dés de 6 et chaque dé doit être supérieur au code de dommage. Il y a un troisième truc, je sais plus où. Ah, pour certaines armes, il faut résister à l'étourdissement, c'est un autre type de jet. C'est 2 dés de 6 plus volonté plus constite contre le nombre de dommages que tu as fait. Donc tu vois. Tout le système de jeu, c'est une bande de potes en fait.
Ouais, ils ont joué.
Qui ont joué.
Ils ont rajouté des petites règles au fur et
à mesure. Ils ont rajouté un truc, le MJ il a fait putain, j'ai pensé à un truc, tiens, on va faire ça. Et donc il n'y a pas de cohérence d'ensemble. C'est-à-dire qu'au moment de la réécriture, parce qu'en fait il n'y a pas que des défauts hein, dans le jeu. Là c'est vraiment que le système de jeu qui voilà, me hérisse un peu parce que ça manque de cohérence.
J'aimerais que tu ailles assez vite en fait.
Ah d'accord, faut que je continue. D'accord. Donc on passe sur le système de jeu qui est assez moyen. Et on va arriver sur la partie background qui fait à peu près la moitié de l'ouvrage. Il y a un premier chapitre qui fait le point sur la mythologie Stargate, toutes ses origines, sa genèse. Donc c'est bien fait, mais c'est un petit peu rapide. Encore une fois, il y a des références au background. Il y a pas mal de références au background qui est censé être connu des joueurs. C'est-à-dire que le jeu, il est fait par des mecs qui sont super bons sur l'univers de Stargate, qui le connaissent sur le bout des doigts et ça se sent. Quand ils ont écrit leur jeu, ils ont voulu faire quelque chose. Il y a différentes parties où on voit que les mecs ils font un effort pour les newbies. Mais ils vont pas jusqu'au bout du truc. D'un autre côté, ça ferait une bible de 800 pages. Mais il y a plein de choses. Si tu veux, ils font des références à des points super obscurs du background qu'il faut se taper 10 saisons de Stargate SG-1 plus 4 saisons de Atlantis.
Et toi, t'as pigé.
Pour avoir compris. Non, moi, il y a plein de trucs que j'ai pas pigé, justement.
Ah, d'accord.
Alors, il y a des trucs que j'ai pigé en disant, ah, ça, je m'en souviens. Mais je me suis dit, ça aurait été sympa de faire un petit rappel et pas juste des points. Et à côté de ça, il y a par exemple un chapitre sur les races que j'aurais bien vu au début, avant la création des 10 races, qui est super bien fait. On parle du phénomène d'ascension, par exemple pour les anciens, il y a une race qui a fait ascension, qui est devenue une espèce de race d'énergie pure et qui a laissé des technologies un petit peu partout, notamment les portes des étoiles. Donc ça c'est intéressant, la manière dont c'est décrit, c'est vraiment très très intéressant. Il y a une description des grands maîtres. Goa'uld, c'est-à-dire toutes les créatures qui sont fait passer pour les anciens dieux, qui est très intéressante aussi. Il y a un chapitre sur les lieux importants, des planètes particulières, il y a même un vaisseau spatial complet qui est particulièrement bien décrit. Donc il y a toute la partie sur le background qui est vachement bien. Elle n'est pas complète, mais elle est bien écrite. Et sincèrement, j'ai l'impression que, à mon avis, c'est une autre personne qui l'a écrit, sans vouloir remettre en cause l'auteur des règles en général. Mais il y a une vraie différence entre l'écriture du background qui est clair, qui est didactique, même s'il manque des choses et qu'il y a un certain nombre de renvois, et qui t'explique plein de choses super, super intéressantes. C'est-à-dire qu'on sent que l'univers, il est vraiment bien et qu'il y a beaucoup de choses à en dire et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à en faire. Et les mecs se placent à la fin de toutes les saisons, en fait. Donc ils font un panorama de tout ce qui s'est passé dans toutes les saisons, et je peux vous dire que c'est assez riche. Il y a plein de scénarios. Donc la troisième partie présente 3 petits scénarios que j'ai pas lus, mais il y a un supplément gratuit aussi qui présente une dizaine de scénarios supplémentaires. Donc rien que pour ça, j'ai envie de dire, voilà, ça c'est bien, c'est-à-dire que tu peux prendre le jeu et y jouer, tout simplement, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple de Vorheim. Il y a des stats de PNJ, il y a une annexe sur le combat spatial et les vaisseaux. Ensuite, on revient aux règles avec des pouvoirs spéciaux qui s'achètent avec l'XP, donc c'est les atouts. Et comme dans notre jeu. Donc voilà, tu m'as demandé de faire rapide, donc je vais pas forcément développer beaucoup plus que ça. Je vais juste donner mon avis. Il y a pas mal de fautes et de coquilles. Il y a pas mal de choses où on sent que les mecs, c'est une bande de potes qui ont écrit un jeu et il manque le recul que pourrait t'apporter un éditeur ou un mec qui est pas de leur groupe. Il y a par exemple, donc comme je te disais, les petits trucs, un peu le kiff du MJ, un petit peu le langage familier à certains moments où on sent que le mec il a écrit, tu sais, genre sur un truc un peu rapide et puis qu'ils ont pas relu après. Il y a aussi un truc qui s'appelle, il y a une notion, le roleplay convenable. C'est-à-dire à chaque fois que tu veux, ouais, tu me regardes plus bizarrement. À chaque fois que tu veux prendre une race un peu puissante ou que tu veux acheter une arme un peu rare, etc., on te dit, ok, sous condition de roleplay convenable. Alors j'arrivais pas à capter ce que c'était jusqu'au moment où j'ai capté qu'en fait c'était. Le terme roleplay convenable est un peu bizarre, c'est juste pour dire qu'il faut donner une explication crédible au MJ pour avoir le droit d'acheter ou d'utiliser la capacité en question. Okay. C'est-à-dire que, ok, normalement les races surpuissantes, genre tu vas jouer un Wraith ou un truc comme ça, on les a pas, sauf si tu donnes un truc super crédible au MJ et que le MJ l'accepte. Là, d'accord.
Mais mettre ça sur. Il y a aussi le roleplay. Moi, j'ai pas lu le jeu, donc. Ouais. Mais roleplay convenable, moi ça me rappelle vachement Dark Souls où tu jouais par exemple un demi-géant et t'étais censé, et personne, aucun joueur à la table ne le faisait, jouer un mec qui était quand même à moitié demeuré et qui avait aucune personnalité. C'était le roleplay convenable, c'était de jouer un demeuré. Et le trickrine, c'était un mec qui s'associait jamais, enfin que personne comprenait, etc. Enfin, il fallait jouer le personnage.
Les mères religieuses.
Voilà, alors qu'il était super bourrin, quoi. Donc forcément, tout le monde voulait le jouer.
Tu voulais bouffer tes camarades du groupe, je crois.
Parce que tu les aimes bien.
là, tu te poses en post-création de personnage. Là, souvent, c'est en pré-création de personnage. Pour acheter la capacité, tu dois faire un roleplay convenable.
Donc c'est un background.
D'accord, faut jouer, en fait,
c'est plus un background.
Faut jouer l'acquisition, quoi.
Faut jouer l'acquisition, très exactement. Donc, pour aller vite sur le jeu en lui-même, je trouve que c'est un jeu amateur, écrit par un groupe d'amis qui doit jouer depuis très 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 longtemps dans cet univers et qui n'a pas eu les règles qu'ils auraient voulu depuis le départ, et qui se sont fait leur propre sauce, et qui un jour se sont dit, putain, on a quand même fait un truc pas mal, ce qui est vrai, si on écrivait un jeu complet là-dessus. Il leur manque... le recul et le point de vue de personnes vraiment extérieures à leur jeu pour pointer du doigt justement les erreurs de gameplay. Erreur de gameplay classique, par exemple, t'as une race, l'un de ses pouvoirs c'est plus 25% d'XP. Voilà, imagine n'importe quel jeu avec plus 25% d'XP pour une race. Voilà. non, mais n'importe quel jeu. Hein, voilà. Okay.
Est-ce qu'il faut un roleplay convenable pour la jouer?
Alors, soit c'est une race particulière, soit c'est un atout spécial que t'achètes avec un petit peu d'XP au début si t'as genre 18 en intelligence.
Moi, si on peut pas faire de jet de saumon, ça m'intéresse pas.
non, mais donc tu vois, là, ça fait partie des trucs où quand t'as un œil un peu exercé, tu fais oh putain, ça.
ça
c'est la faille, quoi. En 4 parties, le mec il a explosé tout le monde, quoi. Donc bon, tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc le jeu il est bien, notamment par l'explication du background. Moi, franchement, en termes de références rôlistiques, et quand t'as pas envie d'aller te taper Wikipédia sur Stargate et te lire 2000 pages, ça fait le job.
Je pense quand même que les gens qui vont jouer à ce jeu, ils se sont tapés toute la série, donc ça sera un aimable rappel, le contenu du background.
C'est un aimable rappel, mais vraiment bien fait. Enfin, le point positif, parce que je vais pas casser le jeu. Franchement, le point positif de ce jeu-là, c'est le background, c'est les scénarios, et c'est le fait qu'il soit jouable. Vraiment.
Aimable rappel, c'était pas négatif. Hein. C'était juste te dire, t'es censé avoir vu la série, quoi. Donc ça t'aide.
Ouais.
Mais pas destiné à quelqu'un qui n'a
moi,
pas
j'ai
vu.
Moi, j'ai vu 8 saisons de Stargate SG-1 et 2 saisons d'Atlantis.
La vache.
Ouais. Y a plein de choses que j'étais content effectivement d'avoir comme aimable rappel, quoi. Ouais. Voilà, juste les règles, il faut retravailler ça.
Ok.
Voilà,
très
désolé,
bien.
J'ai pas pu dire tout ce que je voulais, mais c'est pas grave.
Non mais c'est ça, on commence à faire long. Il est plus de 23h30.
Ça marche, ouais.
Bon, on va terminer cette émission. Juste quelques trucs. Loïc, tu voulais parler d'un truc qui va se passer
Oui, si tu édites le podcast, ça t'en. il y a, pour ceux qui sont intéressés pour découvrir un peu les GN et plus exactement les Murder Party, la nuit des huis clos qui va se dérouler le samedi 14 septembre.
Ah bah, j'espère quand même Paris. Que j'aurais mis ça en ligne avant. Quoi.
Bah, écoute, je ne sais pas.
Hein. Ah, c'est vachement bien la nuit des huis
clos. Donc pour se renseigner, bah, vous cherchez nuit du huis clos Paris sur Google et vous tomberez très vite sur le site internet nuitduhuisclos.com. Pour avoir toutes les informations et pour 10 euros, il y a moyen de participer à une session. Donc assez souvent, il y a des grands classiques dont on a pu entendre parler dans les catalogues des cartes il y a des années, genre Dieu est mort ou d'autres choses comme ça. Mais aussi des créations plus récentes et c'est très sympathique à faire.
Ok. Alors, j'aimerais aussi juste mentionner un petit site qui s'appelle Indé dans ta face, qui permet d'organiser, de gérer des parties, avec toute une interface où tu dis si t'es joueur, MJ, orga, machin. Évidemment, il faut créer un compte. Celui-ci peut être créé avec à peu près tout ce qui existe, donc Facebook, Google, Yahoo, Steam même, et organiser ses trucs en choisissant ses joueurs, ses machins. Il y a un forum, il y a des événements, des annonces, des trucs. Donc voilà, c'était juste une petite publicité en passant.
Et pour les rares lecteurs hispanophones de jeux de rôle, je fournirai à Cobal les adresses de sites web où on peut se les procurer.
Voilà. Bon, et bien, ma foi, merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux, enfin, aux trois là qui ne sont pas.
Les vacataires.
Voilà. Ça va, ça vous a plu, pas trop dur
Bon, en fait, oui, partie de la deuxième partie, mais je pense que c'est une question de ponche. Parce qu'en fait, progressivement, plus j'en bois, plus je suis bas, et donc plus je suis à la hauteur du micro.
Oui, voilà, c'est ça.
alors, moi, c'est mon stage, et j'espère que j'aurai une bonne recommandation pour mon professeur.
Pour un CDD.
Ah, mais tu sais, à chaque fois, on te dit travaille ta chronique et tout, et en fait, tu seras peut-être embauché, mais c'est faux.
Ah ben non, alors.
Bon, merci à tous, merci de nous avoir écoutés, à la prochaine, salut.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.